Europe Soir,
le 18-20,
Julien Bugier.
Avec ce soir à 19h23, grand entretien exceptionnel dans le Club des Idées, le chef d'état-major des armées, le général François Lecoing, après notre invité jusqu'à 20h. Bonsoir mon général.
Bonsoir monsieur.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On va évidemment revenir sur tout un tas de sujets. On a beaucoup de questions à vous poser sur l'actualité, sur l'engagement des armées face à la menace terroriste, en France notamment, et sur aussi votre vision de la défense nationale. D'abord, je voudrais avec vous qu'on évoque cette opération d'envergure au Mali, révélée par la ministre de la Défense, Florence Parly. Je vous propose d'abord de l'écouter depuis le Niger.
Une opération très importante a eu lieu à partir du début du mois d'octobre de façon conjointe, qui s'est terminée tout récemment. Nous en tirerons évidemment ensemble les leçons. Mais je crois pouvoir dire que jamais nous n'avions atteint ce niveau d'intégration entre nos forces.
Avec une opération particulière, mon général, qui s'est tenue, je crois, vendredi, et qui a visé plusieurs terroristes ou groupes djihadistes qui ont été neutralisés, c'est cela ?
Oui, absolument. Alors, de manière générale, de toute façon, cette opération, elle est un effort marqué à la fin de la saison des pluies, au moment où le terrain peut recommencer à être praticable dans la région du Liptako, où sont déployées les armées françaises et la force Barkhane, et les armées partenaires, et nos partenaires européens d'ailleurs. Et donc, comme de façon récurrente on le fait, on marque un effort particulier de plusieurs semaines en engageant la totalité des moyens disponibles. Là, on a engagé plus de 3000 hommes pour une force totale de 5100 hommes pour l'opération Barkhane. Donc ça représente des effectifs considérables compte tenu de ce qui doit par ailleurs être réparti sur l'ensemble de la zone sahélienne. Et vous avez raison, il y a eu dans le cadre de cette opération un engagement du commandement des opérations spéciales dans la région de Boulikessi qui a été particulièrement efficace.
Combien de cibles ont été neutralisées ?
Dans la région de Boulikessi, là, sur ce qui s'est fait à la fin de la semaine dernière, il y a une soixantaine d'hommes qui ont été neutralisés. Ça représente une katiba. C'est dans la zone d'Ansarul Islam. Et c'est un succès important qui est apporté, encore une fois, à l'engagement fort de Barkhane, mais également du commandement des opérations spéciales. C'est un succès parce que ça permet une fois de plus de désorganiser l'ennemi, de montrer qu'il est un peu aux abois. Et de plus en plus, et ça permet surtout de mettre cet ennemi-là à hauteur de nos partenaires. Je pense que ce que disait la ministre, et c'est très, très juste, c'est le niveau d'intégration auquel on parvient au cours de cette opération, avec les forces maliennes, avec les forces nigériennes, et pour la première fois maintenant, avec des partenaires estoniens engagés dans le task group franco-estonien de l'opération Takuba, qui ont accompagné au combat des forces maliennes d'une centaine d'hommes, en travaillant en coopération avec des forces nigériennes. Tout ça est quand même extrêmement satisfaisant.
Quand vous dites neutraliser, mon général, ça veut dire qu'ils ont été tués ?
Oui, ça veut dire qu'ils ont été tués, pas tous. Il y a eu des prisonniers qui ont été faits. On essaye toujours au maximum de faire des prisonniers pour avoir du renseignement, pour les exploiter, et puis surtout pour les faire juger après.
C'est un groupe qui s'apprêtait, dit-on, à lancer une attaque contre des cibles civiles et des cibles locales ?
Vous savez, malheureusement, tous ces groupes se préparent en permanence à lancer des attaques. Ce qui est vrai, c'est que quand il y a des regroupements qui permettent, par saisie d'opportunité, de neutraliser de façon importante, c'est qu'il y a la préparation d'une action plus particulière. Oui,
oui, c'est un groupe qui est affilié à quel groupe terroriste ? Al-Qaïda, l'État islamique ?
À Ansarul Islam, qui lui-même est affilié au RVIM, Rassemblement pour la victoire de l'islam au Mali, qui dépend évidemment de l'Iyad Ag-Ghali.
Oui, le malien. Qui est, donc, dit-on, réfugié en Algérie.
Ah, je ne sais pas où il est réfugié. Si vous le savez, ça m'intéresse.
On a beaucoup dit ça. On a beaucoup dit qu'il se cachait quelque part en Algérie et que les forces françaises avaient du mal, par conséquent, à l'atteindre.
Nous, je pense surtout qu'il est très habilement d'abord implanté dans une partie de soutien de population du nord du Mali. Et je pense qu'il joue avec les frontières. D'ailleurs, c'est une des difficultés auxquelles nous sommes de manière générale confrontés dans ces opérations. C'est aussi la raison pour laquelle on a créé la force conjointe G5 Sahel. C'est aussi la raison pour laquelle on a décidé de faire des opérations transfrontalières. C'est qu'effectivement, ces groupes terroristes jouent en permanence des frontières.
Sait-on aujourd'hui, mon général, combien de combattants djihadistes sévissent au Mali et dans la bande Sahel ?
C'est une question à laquelle il est très, très difficile de répondre. Pourquoi ? Parce que vous avez des katibas, comme je l'ai exprimé à l'instant, qui sont des djihadistes aguerris et qui forment de véritables unités militaires ou paramilitaires. Ces katibas sont associés parfois avec une partie de la population sur laquelle ils font pression. Vous avez des sympathisants. Vous avez par ailleurs une sorte de, de confusion entre la propagande islamiste comme celle d'Al-Qaïda et des confrontations de nature plus ethnique.
Du volume d'individus contre lequel se bat la force Barkhane et la force française ?
Je pense que la force française Barkhane, dans la région du Liptako, elle est confrontée à 1500 hommes à peu près.
1500 hommes.
Voilà.
Merci Général, vous restez avec nous évidemment, on se retrouve dans quelques secondes et on évoquera les autres sujets qui sont les vôtres et qui sont par définition les nôtres, notamment la menace terroriste en France. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h31, on est toujours avec notre invité exceptionnel dans le Club des Idées. Grand entretien ce soir avec le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, qui est avec nous jusqu'à 20h. Mon général, on évoquait cette opération, ce succès de la force Barkhane au Mali et dans la bande Sahel, réalisé depuis plusieurs semaines avec un point d'orgue, notamment, vous l'évoquiez juste avant la pause ce vendredi. C'est un succès, on l'imagine bienvenu, après notamment la libération par le Mali de plus de 200 djihadistes lors de l'opération d'échange des otages dont la Française Sophie Pétronin. Ça vous a mis en colère qu'on libère autant de combattants djihadistes qui, par définition, sont des ennemis de la France et des soldats Barkhane?
Oui, de manière générale, vous savez, les soldats français et leur chef d'état-major combattent sans colère. Donc je ne me mets pas en colère pour cela. Ce qui est clair, c'est que ça a renforcé la position d'Iyad Ag-Ghali, qui est quand même objectivement le chef ennemi terroriste que nous combattons le plus activement, qui certainement a tiré une partie de prestige vis-à-vis de la population de ce qu'il a obtenu par la libération de ses prisonniers.
Et qui d'ailleurs, pardon mon général, mais qui d'ailleurs ne s'est pas... privé de divulguer des photos de leur retrouvaille avec Al-Ghali. On a vu des photos passer sur les réseaux sociaux où on a vu ces djihadistes qui ont été libérés par les forces maliennes pour libérer les otages avec Al-Ghali.
Oui, c'est une remarquable opération de communication stratégique de la part d'Iyad Ag-Ghali. Et puis par ailleurs, il a reconnu, ou en tout cas il s'est fait reconnaître une forme de légitimité puisqu'il a eu une négociation directe avec le pouvoir malien. Voilà. Évidemment, cela va à l'encontre d'abord de tout ce que nous faisons depuis le début pour aider le pouvoir malien à combattre contre cette organisation terroriste, qui, il faut le rappeler, est véritablement une organisation terroriste, avec des modes d'action, des modes opératoires, des attitudes et des comportements vis-à-vis de la population qui ne sont pas acceptables et qui a d'ailleurs un objectif très clair qu'il suit de façon absolument transparente comme succursale de cette internationale terroriste et islamiste, qui est d'établir la charia dans toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, évidemment, de voir cette libération d'otages qui, très clairement, est exploitée par Iyad Ag-Ghali comme une opération de communication stratégique astucieuse, ça ne nous arrange pas et ça peut affaiblir y compris le gouvernement malien. Et puis par ailleurs, ça veut dire qu'on va retrouver une partie de ces gens qui ont été libérés contre nous et qu'il y a une forme de contradiction à aider les Maliens à essayer de se mettre au niveau de cet ennemi en abaissant l'ennemi et en formant les Maliens, et voir ce gouvernement malien qui, pour des raisons qui lui sont propres, effectue cette opération de libération de prisonniers. Voilà, ça ne met pas en colère pour autant, c'est une donnée du sujet, et je pense qu'il faut être clair sur la volonté maintenue par la France de continuer à combattre Iyad Ag-Ghali.
Est-ce que, par ailleurs, parce que vous l'évoquez, mon général, c'est vrai que c'est un changement stratégique inédit tout de même de négocier avec les groupes terroristes, est-ce que par conséquent, on peut encore considérer que la junte au pouvoir au Mali est encore un partenaire de confiance dans la lutte antiterroriste? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que déclarait il y a peu le président de la commission de défense du Sénat, Christian Cambon, qui est très investi sur les questions de l'engagement français au Mali. Est-ce que le pouvoir malien est aujourd'hui encore un partenaire à qui on peut faire confiance?
Moi d'abord, je pense que cette libération de prisonniers, elle avait été initiée par le pouvoir précédent. Et donc je ne fais pas de différence entre le pouvoir précédent et la junte actuelle, ou en tout cas le gouvernement de transition actuel, dans cette affaire précise de libération de prisonniers.
Oui.
Ce qui est clair, c'est que nous sommes là, non pas en acteur primo intervenant en Mali, mais en partenaire d'un gouvernement qui a demandé à la France d'intervenir au Mali et qui lui a demandé d'intervenir dans une situation désespérée. Et si on ne peut pas se fier à ce gouvernement, effectivement, ça nous pose des conditions considérables, puisque le point d'application principal du succès de nos opérations, c'est la capacité qu'a ce partenaire à remplir ses engagements et à se monter à la hauteur de la menace terroriste qu'il a sur son propre sol. Je ne peux pas vous dire d'autre chose que nous faisons tout ce que nous pouvons, et en tout cas avec les interlocuteurs militaires qui sont les nôtres dans le gouvernement de transition actuel, pour convaincre ces interlocuteurs de conduire le combat. Et à ce stade, j'ai plutôt des avances et en tout cas des engagements assez favorables de la part des opérationnels maliens.
Alors, on va parler de la menace terroriste en France, évidemment, qui nous concerne et qui concerne aussi les armées qui ont été appelées en renfort pour l'opération Sentinelle. D'abord, est-ce qu'aujourd'hui, les forces djihadistes au Sahel, au Mali et ailleurs, ont les moyens de projeter des équipes terroristes en France, comme ça a pu être le cas, par exemple, avec les attentats de Charlie Hebdo ou du Bataclan ? Est-ce que c'est possible, ça ?
Très honnêtement, je pense que tout est possible. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, la priorité de ce groupe qui est encore une fois affilié à Al-Qaïda soit de conduire des actions projetées en France, comme vous le disiez. Je ne prendrai certainement pas le risque de vous dire que ça n'est pas possible.
Oui.
Il y a évidemment une porosité et une population et d'ailleurs une communauté malienne très importante en France. Et évidemment, la France peut être demain... sous la menace d'actions projetées de la part d'un groupe comme celui-là.
Alors, de 3 000 à 7 000 militaires seront déployés dans le cadre de l'opération Sentinelle. C'est ce qu'a annoncé le chef de l'État face à la résurgence de la menace terroriste en France et après les 3 attentats qu'on a connus sur le territoire national. Est-ce que l'ensemble d'abord des effectifs, ça y est, sont sur le terrain ?
Alors, les effectifs aujourd'hui sont à hauteur de 5 000 déployés.
5 000.
Et avant mercredi, nous aurons atteint la totalité du déploiement des 7 000 hommes sur le terrain, sur le territoire.
Donc principalement affectés à la protection des lieux de culte et des écoles.
Principalement affectés à la nécessité de faire peser une menace d'imprévisibilité là où il y a de la population française qui pourrait être une cible de la part de terroristes. Ce que nous évitons à tout prix, c'est précisément de dire on va surveiller tel lieu de culte, telle école. Évidemment, on va être là où la menace est la plus prégnante, et on l'a vu, elle est prégnante sur l'éducation nationale, et ce d'autant plus qu'en cette période de confinement ou de reconfinement, les écoles ne sont pas fermées, les lycées, les collèges, et donc évidemment, il y a une attention particulière posée sur ces écoles. Mais de manière générale, le dispositif Sentinelle, il doit être le moins prévisible possible, le plus aléatoire dans ses modes d'action, et surtout le plus réactif possible.
Et la difficulté, c'est que les militaires sont eux-mêmes, on l'a vu par le passé, des cibles aussi de la part des terroristes. Ils peuvent être pris pour cible, ils peuvent être attaqués. Quelles sont d'ailleurs les règles d'engagement des militaires sur le territoire national dans le cadre de l'opération Sentinelle ?
Alors d'abord, le fait que les militaires soient éventuellement pris pour cible, ou soient des cibles possibles, comme les forces de l'ordre d'ailleurs, comme les autorités de manière générale, nous l'assumons pleinement. Ça veut dire que les militaires acceptent de prendre une partie de cette menace sur eux. Par ailleurs, ils ont des effets de protection et des armes qui sont là pour leur permettre d'agir. Et de ce point de vue, depuis le début de cette opération Sentinelle, à chaque fois que des militaires ont été attaqués, à la fois les réactions et les équipements des hommes ont permis de réagir de façon efficace et avec un maximum de maîtrise de la violence. Ensuite, les règles, c'est les règles normales de la légitime défense. On y ajoute la possibilité pour les armées, dans le cadre de l'opération Sentinelle, d'ouvrir le feu après sommation, pour protéger de la population ou pour protéger des éléments menacés.
Est-ce que les troupes françaises ont les moyens aujourd'hui de ce déploiement ? C'est vrai que les missions sont nombreuses, maintenir la dissuasion militaire, protéger le territoire national avec Sentinelle, avec plusieurs milliers d'hommes, assurer les opérations extérieures et garder aussi une force de projection en cas de crise. Est-ce que les armées en ont les moyens ? Autrement dit, pour parler clair, est-ce qu'on ne vous en demande pas trop, en général ?
D'abord, les armées, elles ont toujours les moyens d'agir dans l'urgence et le chef de l'État, qui sait qu'il a là le moyen d'une réaction immédiate, efficace, le sait parfaitement. Ensuite, c'est toujours une question de choix. Ce qui se fait là se fait au détriment d'autres choses. Se fait en créant ce qu'on appelle, nous, une forme de dette organique. C'est-à-dire que les soldats qui sont engagés à hauteur de 7 000 hommes sur le territoire national ne sont pas en train de se préparer à être engagés dans des opérations de plus en plus dures. Et donc, on crée une forme de dette de préparation opérationnelle. Objectivement, aujourd'hui, compte tenu du niveau de l'armée française, en particulier de l'armée de terre pour elle, qui est concernée plus particulièrement par Sentinelle, de l'effort qui est fait dans le cadre de la programmation militaire et de la loi de programmation militaire pour rehausser ce niveau de préparation personnelle, je n'ai pas d'inquiétude. Ensuite, il faut juger la durée de cet engagement et il faut, vous avez raison de le dire, juger les autres très nombreuses sollicitations dans un milieu géopolitique et géostratégique qui se dégrade.
Très bien, on va en parler dans quelques secondes, toujours avec vous, mon général, général Lecointre, qui est ce soir notre invité exceptionnel, jusqu'à 20h sur Europe 1.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec ce soir un invité exceptionnel dans le grand entretien, 19h41, on est toujours avec le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, qui est notre invité jusqu'à 20h. Mon général, dans une interview récente, vous avez dit qu'à plus long terme, un conflit majeur pourrait nécessiter un engagement fort. Vous citiez 2030 par exemple. C'est quelque chose de possible, dites-vous. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des zones de tension qui vous inquiètent particulièrement ? On pense évidemment, vu les derniers événements, on pense à la Turquie, on pense
à la Chine à plus long terme? Est-ce qu'il y a des zones qui sont particulièrement inquiétantes?
D'abord, il y a des zones qui sont de toute évidence des zones dans lesquelles la conflictualité, le risque d'évolution mal contrôlée sont en train de se multiplier. Voilà. Vous parliez, vous avez raison, de la Méditerranée orientale, je dirais de toute la Méditerranée. Aujourd'hui, la Méditerranée centrale, où nous sommes engagés dans le cadre de l'opération européenne Irini, est un lieu de déstabilisation important. Nous sommes également engagés, et ce n'est pas par hasard, dans le golfe Persique, dans le détroit d'Ormuz, pour des missions de contrôle et d'acquisition de renseignements. Nous sommes dans le canal de Syrie, et vous voyez bien toutes les tensions qui naissent aujourd'hui du fait de l'attitude de la Turquie, mais de manière générale, et c'est ce que je crois le plus frappant, de l'attitude de nouveaux acteurs de la vie internationale qui ne respectent pas ce qui nous semblait être un cadre immuable, qui garantissait la stabilité, qui était un cadre du multilatéralisme, du règlement par le droit des conflits et des tensions. Ça, c'est remis en question complètement avec des puissances de plus en plus désinhibées qui s'expriment en dehors du respect du droit international, en dehors des règles de la guerre, et qui mettent en danger cet équilibre général. Et au-delà de ce qu'on peut observer aujourd'hui, dans le temps présent, des tensions qui naissent, et vous avez raison d'évoquer la Turquie, mais il n'y a pas que la Turquie, et ce qui se passe en Libye fait intervenir d'autres acteurs, évidemment, et la Russie au premier titre. Au-delà de ce qui se passe aujourd'hui à nos portes, et ça me semble très important, et je pense que nos concitoyens ne le mesurent pas assez, on est aujourd'hui dans la zone d'intérêt de l'Union européenne, on est sur nos côtes, on est dans notre mer, dans notre bien commun, et ces menaces de déstabilisation sont importantes. Au-delà de ça, il y a évidemment un risque à 10, 15 ans, parce que je ne vois pas à cet horizon-là de raison que ces facteurs de désintégration de l'ordre international fondé sur le droit et sur le multilatéralisme ne viennent à s'apaiser.
Alors, permettez-moi une petite parenthèse, parce qu'on parle de la Turquie et des événements récents liés à la liberté d'expression, aux caricatures de Mahomet et d'une certaine manière au discours d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que sur l'islam radical, on a été collectivement un peu trop laxiste avec l'entrisme religieux sur ces 10, 20, 30 dernières années?
Très honnêtement, ce n'est pas mon sujet. Ce que j'observe, c'est que les armées françaises sont engagées de façon absolument pas laxiste et au contraire extrêmement active et en payant le prix du sang contre cet islam dont elles mesurent clairement les effets, dont elles mesurent la violence et contre cet islamisme et contre ce terrorisme islamiste, qu'il s'agisse de l'engagement en Irak ou qu'il s'agisse, et au Levant de manière générale, ou qu'il s'agisse de notre engagement en Afrique.
Mais c'est un sujet qui peut toucher l'armée de l'intérieur aussi, la radicalisation.
Alors, on est attentif à ce sujet-là. Nous n'observons pas aujourd'hui de radicalisation dans les armées françaises. C'est suivi de très près par les services du ministère des Armées qui rendent compte à la ministre régulièrement de ce sujet-là. Ce qui me frappe, c'est que l'acte d'engagement d'un soldat français, quelle que soit son origine, l'origine de ses parents et de ses grands-parents, est d'abord un acte extrêmement citoyen. Et donc, il procède d'une volonté de servir son pays, de la façon la plus extrême qui soit, qui ne nous guérit pas, ne nous préserve pas absolument de ce risque, mais qui nous met très sérieusement à l'abri. Et ça crée une sorte de culture collective désarmée, une culture de service, d'adhésion aux trois couleurs, d'adhésion aux idéaux de la République, qui est extrêmement puissante.
D'ailleurs, en général, on ne parle pas, je crois, d'ascenseur social dans l'armée, mais on parle d'escalier, car on monte les marches les unes après les autres.
Oui, c'est vrai.
Je voudrais vous poser une question sur la crise sanitaire. Certains s'étonnent que face à l'urgence et pour soulager les hôpitaux qui sont débordés, l'armée n'a pas été mobilisée pour monter des hôpitaux de campagne. On se souvient que ça avait été le cas notamment en mars dernier, où 30 lits de réanimation avaient été installés en urgence dans le Grand Est. Ça s'était fait sur l'hôpital de Mulhouse, sur le parking. Pourquoi ça n'est pas le cas cette fois, alors que le président nous dit que la situation est plus grave que lors de la première vague?
Alors, d'abord, il y a une raison très simple, c'est que les moyens du service de santé des armées rapportés aux moyens de la santé publique en France sont ridicules. On parle de 1% des moyens totaux du service de santé publique. Le service de santé des armées a d'abord comme mission première l'accompagnement des forces au combat en opération.
Donc, pardon, mais pour parler clair pour tous les gens qui nous écoutent, ça veut dire que les armées n'ont pas la capacité de monter des hôpitaux de campagne partout pour prendre en charge les patients en réanimation qui submergent les hôpitaux.
Exactement. Les armées, en revanche, ont une capacité forte à projeter un endroit précis pour produire un effet précis, des moyens dans l'urgence qui, par ailleurs, pourront se passer éventuellement d'infrastructures lourdes, etc. C'est ce qui s'est fait, effectivement, à Mulhouse lors de la première vague. C'est ce qui vient de se terminer aujourd'hui en Guadeloupe, où nous avons désengagé très récemment notre élément militaire de réanimation. Et c'est ce que nous sommes prêts à refaire dans tel ou tel endroit où le besoin en sera avéré pour venir dans l'urgence combler un besoin particulièrement prégnant. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, vous le savez aussi bien que moi, la crise est généralisée sur le territoire métropolitain et que cette capacité-là, finalement, est assez peu utile et que, sauf à la disperser, ce qui la diluerait entièrement, ne présente pas d'avantage. On a quand même un regard particulier sur les territoires et les départements d'outre-mer. J'évoquais à l'instant l'intervention que nous avons faite en Guadeloupe. Nous avons envoyé une mission d'études en Polynésie française pour voir quel était le besoin précis. Voilà. Ce que nous ferons, c'est un emploi des capacités militaires en ce qu'elles ont de spécifique, de très réactive, d'une capacité d'emploi très forte, par exemple, de transfert d'une zone à l'autre. On a récemment transféré depuis Avignon jusqu'à Brest, la semaine dernière, des malades grâce à un kit qui s'appelle le kit Morphée, qui permet de transporter des malades en réanimation dans un avion militaire. Mais aujourd'hui, cette capacité-là, elle est de moins en moins nécessaire en réalité.
Alors, mon général, pour terminer, il nous reste quelques instants. Question peut-être plus personnelle. Vous êtes un chef qui a l'expérience du terrain, de beaucoup de conflits, le Rwanda, l'ex-Yougoslavie, avec l'assaut du pont de Verbania, tenu par les Serbes à l'époque, la première guerre du Golfe également, en passant par la Somalie. On dit qu'il est rare qu'un officier de votre niveau ait une telle expérience de terrain. C'est ce que j'ai lu dans les commentaires qui ont accompagné votre nomination. Quel est le rapport que vous entretenez avec vos troupes et comment vit-on quand on est un chef comme vous? La mort de ces soldats.
Merci, parce que votre question est très profonde et elle me touche profondément. D'abord, ce que vous dites est très vrai. Les officiers de ma génération, qui sont aujourd'hui aux commandes des armées, ont vécu cette période, et ceux de la génération montante encore plus. Et donc, nous sommes une génération de militaires, de soldats, qui auront été ensemble avec leurs hommes au combat. Ensuite, ce que vous dites est très juste, c'est pas un chef seul devant ses hommes, c'est un chef avec ses hommes. Et toutes ces opérations qui nous engagent, qui nous éprouvent profondément parce qu'elles nous conduisent à donner la mort, qu'elles nous conduisent à voir les nôtres mourir ou tomber blessés à nos côtés, sont d'abord des éléments vécus collectivement, qui créent une fraternité. Et le terme de fraternité d'armes n'est pas un terme vain. Il y a réellement, et je pense à chacun des hommes que j'ai commandés, à chacun des hommes avec lesquels je suis allé au combat, quand je ferme les yeux, j'ai leur visage dans la tête, c'est une vraie relation de fraternité. Elle crée un lien parfaitement unique aux armées, très singulier, très fort, très puissant. Elle crée un lien unique et fort avec nos familles. Elle crée un lien qui est entretenu avec nos blessés. Tout ça est très fort, doit être aussi un ferment d'ailleurs de, je pense, d'union nationale et doit inspirer nos concitoyens. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose, on pourrait en parler indéfiniment.
J'imagine que vous aurez une pensée pour à la mort. Tous ces soldats morts au combat le 11 novembre prochain.
Alors on va arriver au moment du 11 novembre à cela. Un mort au combat, c'est quelqu'un qui accepte de donner sa vie pour son pays en allant lui-même donner la mort, c'est-à-dire en faisant la chose la plus extrême qui soit. Cet engagement-là, il est proprement héroïque. C'est l'engagement de tous nos soldats de France et nous devons être extrêmement fiers d'eux. Et à chaque fois que je vais devant ces monuments, nous allons arriver à une année d'anniversaire de l'inauguration de ce monument aux morts en opération extérieure. Je suis ému et confiant de voir que cette belle jeunesse de France, elle continue à s'engager dans ces guerres, dans ces conflits, avec un sens du service absolument admirable.
Bien. Merci infiniment pour ces mots de conclusion, mon général. Merci, général Lecointe, de nous avoir accompagnés dans le grand entretien d'Europe Soir. Europe 1.